Sud Radio, l'œil de l'expert.
L'œil de l'expert, ce matin, je devrais dire le coup de cœur de l'expert. C'est pour l'écrivain Philippe Torreton, pas le comédien. Je reçois l'écrivain ce matin. Bonjour Philippe Torreton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez publié Une certaine raison de vivre chez Robert Laffont. C'est un premier roman. Si je ne me trompe pas, on vous connaît évidemment, on ne va pas refaire votre carrière de comédien, mais on avait beaucoup aimé, je me souviens avec Gérard Collard, Mémé. C'est un livre dans lequel vous rendiez hommage, un hommage très tendre à votre grand-mère. Il y a un lien d'ailleurs, vous le dites à la fin du livre, d'une certaine manière, sur cet amour de la terre dans ce roman.
Oui. C'est pour ça que j'ai insisté sur les remerciements.
Oui,
pour montrer l'origine de tout ça, quoi.
Oui, voilà. Alors, l'origine de tout cela, c'est une nouvelle de Jean Giono. Jean Giono, peut-être qu'on peut commencer par dire qu'il est injustement oublié. Il ne fait pas partie des écrivains, j'ai envie de dire, à la mode dont on parle beaucoup.
Alors, est-ce un inconvénient ou un avantage pour lui? Je ne sais pas, parce qu'il est ancré chez beaucoup de gens, quand même, de façon définitive, comme un immense écrivain. Mais c'est sûr qu'il n'a pas une gloire comme ça, beaucoup plus grande que certains à talent égal.
Ouais.
Mais je pense que c'est tellement durable. C'est comme une strate géologique, quoi. Il est dans
là,
notre paysage.
Il fait partie de...
Ah ouais, vraiment.
Alors, ce livre, c'est d'abord une histoire d'amour. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en le lisant. c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. C'est une histoire d'amour originale.
C'est ce que j'ai voulu écrire. Une grande histoire d'amour.
Ouais. C'est exactement cela. Parce que c'est vrai que quand on parle de Giono, on pense à la Terre, on pense à cet écrivain régionaliste. Or, ça part de Giono. Il y a beaucoup de points communs avec lui, évidemment, mais c'est quand même une histoire d'amour un petit peu, enfin tout à fait hors du commun.
Oui, j'ai voulu.
Comment vous êtes dit, voilà, je pars de Giono, de l'homme qui, c'est l'homme qui aimait planter, l'homme qui plantait
l'homme,
des arbres,
l'homme qui plantait des arbres.
Et comment on construit une histoire autour de cela?
Mais moi, j'ai découvert cette nouvelle il y a à peu près 20 ans maintenant, et. Et c'est le genre de petit livre que vous avez toujours sur vous, que vous offrez à tout le monde. Et j'ai toujours rêvé à partir de cette nouvelle, en me disant j'en ferai quelque chose un jour, mais je savais pas quoi. Et évidemment, on pense à une adaptation, ou pour le théâtre, ou pour le cinéma. Et j'ai commencé à travailler en ce sens-là, d'ailleurs. Mais et puis j'ai appris que cette nouvelle était une fiction. C'est-à-dire qu'à son corps défendant, il était obligé, Giono, devant le succès de cette nouvelle, qu'il avait cédé à l'humanité, hein, il n'y avait pas de droit sur cette nouvelle, il avait dit, bon ben, voilà, c'est ma façon à moi de planter des armes, c'est d'écrire ça et de vous le donner. Mais ça a eu un succès dingue, ça a été traduit dans des dizaines de pays. Et des gens ont recherché la trace de ce berger planteur d'armes.
Oui, il faut raconter peut-être rapidement l'histoire, c'est un berger
Giono
qui plante des armes.
Giono raconte qu'en 1913, il aimait se promener, il s'est paumé, et il n'avait plus d'eau, il a rencontré un berger qui vivait tout seul, entouré d'une trentaine de brebis, et le lendemain, il l'a suivi, parce qu'évidemment, il lui a prêté le gîte et le couvert, et le lendemain, il l'a suivi un peu dans ses promenades avec ses moutons, et il s'est aperçu qu'il plantait des arbres. Il plantait 100 glands de chêne par jour, et que ce travail, il l'avait commencé à la mort de sa femme et de son fils 5-6 ans avant. Et Giono nous raconte que après la guerre, il va retourner le voir et que cet homme n'a pas cessé de planter 100 glands de chêne par jour toute sa vie jusqu'à sa mort en 1947. Et qu'à la fin, évidemment, il a changé le paysage de cette région qui était désertique. Les villages dépeuplés se sont repeuplés, les maisons se sont rebâties, les cultures ont été irriguées parce que l'eau pouvait couler. Et Giono termine en disant « cet homme simple a accompli l'œuvre de Dieu ».
Et changer la vie changer la vie des gens avec les arbres. Donc c'était un manifeste écologiste bien avant l'heure.
Bien avant l'heure, voilà. et qui sert d'ailleurs, qui est une bible écologique pour plein de militants à travers le monde. Et donc, quand j'ai appris que c'était une fiction, cette nouvelle, que Giono n'avait pas vraiment rencontré Elzéar Bouffier, le nom du berger, je me suis dit, celui qui nous la raconte, cette histoire, n'est pas forcément Giono. Ouais. Donc j'ai imaginé
ce qui se passait avant,
de l'homme qui a vu l'homme qui plantait des arbres.
Voilà, qui a vu. Qui a... Alors cette histoire d'amour, il faut quand même en parler. Elle, votre personnage est tout à fait étonnant. Il est un peu dans la lune. Il est toujours un peu absent parce qu'il faut dire qu'il a vécu la guerre. On parle des gueules cassées. Là, c'est une gueule cassée de l'intérieur. C'est
exactement.
Un type qui a laissé une partie de lui sur le champ de bataille. Mmh. Et on pense que l'amour peut le sauver.
C'est plus compliqué que ça.
Ouais.
C'est un de ses points communs avec Giono, c'est qu'il a fait la guerre comme Giono et qu'il il en sort indemne comme Giono, mais fortement traumatisé comme Giono aussi.
Ouais.
Ce qui vaudra à Giono des positions pacifistes qui seront très très dures à tenir pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'ai voulu que finalement, au sortir de cette guerre terrible pour lui et pour des millions d'êtres humains, la vie s'ouvre au contraire, lui sourit. C'est-à-dire que très vite, il réintègre son petit travail d'archiviste dans une banque à Paris, au comptoir national d'escompte, qui deviendra plus tard la BNP, et il rencontre Alice, qui n'est autre que la fille du directeur de cette banque. Et donc tout s'ouvre. C'est-à-dire qu'en quelques mois, il passe d'archiviste inconnu à gendre d'une des plus grosses fortunes de l'entre-deux-guerres, et avec surtout cet amour fou qui les lie. Et en fait, la guerre le ramène en arrière, le tire en arrière. Il n'a aucune possibilité de vivre ça simplement. Et comme il dira plus tard à Alice, j'ai toujours l'impression que la vie se passe dans la pièce d'à côté. Je vous entends parler, je vois vos lèvres et tout, mais je n'y arrive pas. Et donc c'est ça qui va rendre le parcours compliqué.
Compliqué, une sorte d'amour à l'envers en plus, parce qu'ils vont s'éloigner, ils commencent par se marier,
et devenir amant et maîtresse.
Alors, je dois dire, ça m'a fait penser à Zola, je vous l'ai dit quand vous êtes arrivé. Il y a ce souci de la description, c'est très cinématographique, c'est comme les écrivains naturalistes qui décrivaient au plus près, et on voit les scènes, on voit les personnages, on les imagine. Et vous avez une plume d'écrivain, on peut le dire.
Merci.
C'est difficile d'être comédien et de faire oublier cela, où aujourd'hui ça commence quand même à...
Ça commence, mais c'est sûr que dans la tête de pas mal de gens, je suis un acteur qui écrit.
Ouais.
Mais là, ce roman est en train de faire un peu basculer les choses.
C'est très, très puissant, une écriture puissante, une écriture encore une fois qui est très imagée, et c'est ce qui nous porte dans le livre. Hein, c'est ce
surtout
souffle...
Ce que je crois, c'est que je ne décris que ce que voient mes personnages.
Absolument.
C'est-à-dire que je n'encombre pas le lecteur d'une description. Je pense que j'ai... On a le souvenir de ces grandes œuvres où le cinéma n'existait pas. Donc, il fallait bien que l'auteur nous plante le décor, nous montre Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris, etc. Ouais. Toutes ces pages descriptives, c'était du cinéma.
Absolument.
Mais maintenant, on ne peut plus écrire comme ça. Maintenant, depuis que le cinéma est là, on peut voir tout ce qu'on veut sur nos smartphones, etc. Donc... Moi, je ne décris que ce que voient les... Et j'ai une écriture, en fait, je la qualifie maintenant à force de retour, mais à hauteur de personnage. C'est-à-dire que je n'en sais pas plus que... Je suis un témoin privilégié.
Oui, c'est pour ça qu'on rentre, on participe à l'histoire. Vous écrivez depuis longtemps, quand vous étiez enfant ou adolescent, c'était...
Non, enfin...
Comment ça vous est venu, l'envie d'écrire ?
C'est le théâtre, c'est l'oralité, en fait. Je crois avoir commencé à écrire des petites choses dès la première année où j'ai fait du théâtre, j'étais au collège. Mais avant, non. L'écriture était pour moi compliquée. J'étais pas très bon en français, c'est un euphémisme. Et donc j'étais paralysé. C'est-à-dire, écrire quelque chose à quelqu'un, j'étais sûr qu'on allait s'arrêter sur mes fautes et pas sur ce que je voulais dire. Donc je n'écrivais jamais. Et finalement, le théâtre m'a permis de me désangoisser, d'apprendre des phrases par cœur, des phrases des autres, des belles phrases. Ça vous réconforte et vous augmentez votre vocabulaire. Et puis, vous vous améliorez, évidemment, à l'écrit. Et voilà, il y a un chemin d'écriture qui est vraiment lié à l'oralité. C'est pour ça que je milite beaucoup pour l'oralité à l'école.
Ouais, parce que
apprendre le français par l'oral, oui, bien sûr.
Vous aimez bien les mots un peu désuets aussi. Il y a des mots qui... dont même moi j'ignorais le sens.
L'époque de mon histoire s'y prêtait, y compris dans le langage des poilus, des bergers de Provence aussi. Ouais. Mais, mais je, Moi, j'ai toujours pensé qu'une langue est vivante par sa faculté d'absorber des mots nouveaux, de les intégrer, ou des mots étrangers, ou des mots de la rue, des mots de la jeunesse, mais aussi de remettre sur selle des mots anciens. Et alors, certains mettront beaucoup de temps, peut-être pour certains c'est impossible, mais je crois qu'il y a toujours un espoir. Si les mots ont été inventés un jour, c'est pas pour rien. Donc, c'est comme les braises, parfois vous soufflez un peu dessus et le feu repart. Et ben, je fais ça avec les mots aussi.
Vous écrivez quand, comment? Parce que vous êtes très, très occupé.
Oui, partout, tout le temps, dans les trains, dans les hôtels, chez moi. Là, le confinement m'a un peu aidé quand même. Mais c'est sûr que je vole du temps où je peux.
Mais vous n'avez pas besoin d'avoir des rituels, comme ont certains écrivains, de dire « je travaille le matin, je travaille le soir ». Vous pouvez écrire n'importe où.
Ce livre-là, il a été aussi écrit de façon très régulière, justement, le matin, après que mes enfants soient partis à l'école, je m'installais et je pouvais écrire, même sauter la pause déjeuner. Et puis,
vous retravaillez beaucoup ? Comment vous travaillez ?
Tout le temps.
Vous écrivez un premier jet, vous revenez, vous avez le roman en tête. Enfin, moi, j'aime bien savoir comment travaillent les écrivains.
Tout vous dire, je vais tout vous dire. J'écris, en général, il y a une spontanéité comme ça qui me vient. Je la valide par l'oralité. J'ai besoin de lire à voix haute ce que j'écris pour voir si ça coule, si ça heurte pas la langue.
Là, c'est le gueuloir.
Oui, exactement. Et puis, je reviens toujours dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis même obligé de ne pas reprendre mon roman au début parce que je retravaillerai tout le temps le début, en fait. Mais je retravaille beaucoup, beaucoup. Bien sûr.
Oui, et les personnages, l'histoire, vous l'avez écrite avant, vous savez où vous allez.
J'avais toute la trame.
Vous aviez fait un plan.
Ouais, toute la trame. Parce que en plus, c'est une chronologie un peu déconstruite, donc c'était important de savoir où on allait. Mais en même temps, ce que j'ai vécu là pour la première fois, puisque c'est mon premier roman, c'est l'extraordinaire capacité qu'ont les personnages à exister presque indépendamment de vous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas leur faire dire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas aller n'importe où. Ils ne peuvent pas se comporter n'importe comment. Et finalement, au bout d'un moment, vous les regardez vivre, en fait. Et pour la première fois de ma vie, quand j'ai eu terminé, où je me suis dit, bon, là, en gros, j'ai terminé un premier travail, en tout cas, j'étais triste, j'étais dépossédé, j'avais envie de les retrouver. J'avais envie de continuer avec eux, quoi, de savoir ce qu'ils allaient faire après. C'est un peu sentimental, mais c'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est très joli, c'est ce que vous dites, parce que de sentir que ces personnages en fait existent, vous leur avez donné corps, et ils deviennent presque.
Et oui, et même, je vais pas tout dévoiler, mais arrive une petite fille à un moment donné à la fin. Mais elle est venue, mais d'un coup, comme ça.
Oui, c'est ça. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent au fil de l'écriture aussi.
Ouais. Mais 5 minutes avant, j'aurais été incapable de vous dire, oui, il va se passer ça. Non, elle est venue. Elle est venue et je l'ai... Et alors, l'idée m'est venue. Mais si elle est venue, je me dis que c'est aussi... parce que j'ai décrit avant. Donc, c'est comme si elle était obligée de venir, en fait.
Alors, vous parlez évidemment des arbres, il y a ce passage. Ça va, Monsieur Jean, c'est votre personnage, vous cherchez quelqu'un, la forêt a disparu. Vous aimez les arbres, dit-il sans la regarder. Les arbres, oui, les arbres. Je ne me suis jamais posé la question, on parle des blessés, et vous pensez aux arbres. Et c'est vrai que les arbres, même aujourd'hui, alors moi j'ai un combat pour un cèdre dans ma commune qui doit être abattu. Je me suis renseignée auprès du jardinier de Versailles. Il me dit, est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui on peut abattre un arbre, que les arbres ne sont pas protégés? Tous ces arbres dits magnifiques, ces grands arbres, aujourd'hui ne sont absolument pas protégés.
Mais ce qui est une erreur tellement, j'allais dire un scandale, mais plus qu'un scandale encore, c'est une telle erreur par rapport à la vie. Un arbre est un monument dont on ne sait quasiment rien. Le fait de savoir qu'il y a plus de bois sous terre qu'au-dessus, c'est-à-dire que la masse ligneuse est plus importante dans le sol. Et la communication des arbres, on est au balbutiement, on commence à peine à se rendre compte que oui, effectivement, ça communique entre eux. Donc c'est l'ignorance humaine est crasse dans ce domaine. Et on doit vite réparer ça en donnant un statut aux arbres. Ouais. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les arbres.
Bah, on va s'en occuper.
Ouais. Mais je vous
accompagne. Mais, absolument. Louise Lou nous dit Giono, un panthéiste qui faisait corps avec la nature, un des écrivains français les plus inspirés, avec trois petits cœurs. Effectivement, vous lui rendez hommage dans les remerciements. La fille de Giono a lu le.
Bien sûr.
C'est sa fille ou sa petite fille?
Non, c'est sa fille. C'est sa fille, Sylvie Durbé Giono. Ouais. Et je lui avais évidemment envoyé le roman. Je lui avais demandé aussi l'autorisation, même si elle m'a répondu très gentiment. Ouais. Vous n'aviez pas à me la demander, mais je vous l'accorde avec plaisir. Ouais. Et elle m'a dit que, après l'avoir lu, que son père aurait été ravi de cette histoire. Et ça m'a.
Mais
ça
c'est
m'a ému.
Franchement un livre qui vous prenez le lecteur par la main. Ça parle de la guerre, évidemment, ça parle des deux guerres, mais c'est surtout les personnages qui sont d'une réalité, d'une puissance incroyable. Et puis cette histoire d'amour, c'est vraiment le cœur du roman. Donc
mais ça fait très plaisir parce que beaucoup de gens me disent vous êtes obsédé par la guerre. Non, je suis obsédé par l'amour, par les plantes, par Giono, par tous ces personnages là.
C'est au travers de cette histoire d'amour que vous parlez de la guerre.
Exactement.
et de l'impact que ça a pu avoir
la
sur certains.
La guerre est une toile de fond, mais c'est pas du tout l'objet.
Une certaine raison de vivre, c'est chez Robert Laffont. Allez-y, je vous garantis que vous passerez un très bon moment. Merci beaucoup Philippe Torreton d'être venu sur Sud Radio ce matin, et on se retrouve nous dans un instant pour commenter, mais non pas commander, une actualité beaucoup moins drôle. À tout de suite.